Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ces avant-derniers carnets de la saison qui auront des petits airs de congé, forcément, un 30 juin. Et les vacances, pour beaucoup, ça commence sur les routes. On ira voir en Allemagne comment la police a décidé de sévir contre les voyeurs. Vous savez, ceux qui ralentissent et sortent leur smartphone quand il y a un accident. Et puis au Japon, on s'inquiète de ces personnes âgées, voire très âgées, qui provoquent de plus en plus d'accidents graves. Ils sont fortement incités à rendre leur permis. Autre reportage surprenant, que fait-on quand c'est l'été, qu'on est jeune et qu'on habite Kaboul ? Eh bien, parfois, on fait des acrobaties en vélo. Je vous emmènerai rencontrer les riders, filles et garçons, d'un club de BMX. Au lendemain de la Gay Pride parisienne, on entendra les préoccupations des communautés LGBT de Sao Paulo au Brésil et de Rome en Italie, confrontées au conservatisme dans ces deux pays au gouvernement populiste. Et puis, si vous voulez vous évader cet été, voyager, découvrir le monde, relisez Kessel. C'est le cri du cœur d'un autre voyageur au long cours, grand reporter et romancier. Olivier Weber sera notre invité. Tout à l'heure, il est l'auteur d'un dictionnaire amoureux de Joseph Kessel. L'autre conseil lecture, c'est bien sûr Nicolas Carreau qui viendra nous le livrer avec un auteur néerlandais aujourd'hui. Quant à Joseph Chovanec, il a repéré que c'était après-demain la journée mondiale des ovnis. Il ne lui en faut pas plus pour qu'il nous embarque assez loin. Les carnets sont ouverts. Début du voyage sur les autoroutes allemandes. Ce sont des situations qu'on a tous déjà rencontrées. Il y a eu un accident et tout le monde ralentit pour voir. Certains s'arrêtent pour aider, mais d'autres parfois sortent leur portable pour prendre des photos ou pour filmer. Eh bien, sachez que c'est formellement interdit en Allemagne depuis 2 ans. Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Vous êtes à Berlin. La police allemande a donc décidé de s'en prendre aux voyeurs sur l'autoroute. La lutte contre ce fléau est prise très au sérieux.
Oui, ici, vous risquez des amendes et des peines de prison jusqu'à 2 ans. Et le Parlement allemand compte encore durcir cette loi dans les prochains mois. Donc attention si vous passez vos vacances d'été ou les suivantes en Allemagne.
Alors la question qu'on se pose, comment faire appliquer cette règle ? On imagine que sur le lieu d'un accident ou d'un carambolage, les policiers ont autre chose à faire que de contrôler les automobilistes voyeurs sur la voie d'en face.
Effectivement, et on assiste partout à des scènes du genre de celles que nous décrit ce policier en Bavière.
Malheureusement, une fois de plus, les gens sont en train de filmer avec leur portable depuis leur véhicule. Le bouchon que nous avons ici est exclusivement causé par les ralentissements des voyeurs. Et de notre côté aussi, sur la seule voie utilisable, ça filme de partout. C'est vraiment frustrant d'assister à ça.
Alors en mai, un jeune homme est mort près de Berlin parce que les secours ne sont pas arrivés assez vite sur le lieu de l'accident. Ils étaient ralentis par les embouteillages créés justement par ces voyeurs. Et cette histoire a mis notre policier de Bavière absolument hors de lui. Alors il s'appelle Stefan Pfeiffer, il travaille sur un tronçon autoroutier autour de Nuremberg. Et filmé par ses collègues, il est devenu la star d'Internet grâce à sa nouvelle méthode d'intervention. Écoutez ça.
Stop. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Venez. Des cadavres ? En photo ? Vous voulez le voir ? Non ? Non, vous voulez pas le voir ? Pourquoi vous faites des photos alors ? Vous ne pouvez pas le regarder. Il vient de votre pays. Si vous voulez, vous pouvez lui dire salut. Vous voulez ?
Non.
Honte à vous. Et maintenant, vous devez payer 128,50 € pour avoir fait des photos de l'accident. Honte à vous.
Pardon.
Ça calme, évidemment. Est-ce que ce policier a inspiré d'autres collègues ?
Alors oui, la méthode est reprise dans le Brandebourg et en Rhénanie, mais ça reste toujours des initiatives personnelles de certains policiers déployés sur le terrain. Ce n'est pas une politique systématique. Il faut quand même avoir la trempe de ce Pfeiffer pour que le petit jeu de rôle fasse vraiment son effet. Avec lui, ça marche bien parce qu'il a un regard sévère derrière des lunettes carrées, une barbe taillée au cordeau. Et il assume parfaitement ce qu'il appelle sa thérapie de choc.
Pour nous, c'est un moyen de renvoyer les gens à leur comportement et les pousser à réfléchir. Plutôt que leur demander les 128,50 € et les laisser partir, ce qui n'a aucun effet sur le long terme. Il faut qu'ils réalisent ce qu'ils font.
En parlant de thérapie de choc, Hélène, on se souvient aussi d'un court-métrage qui avait été diffusé sur Internet il y a un peu plus d'un an et demi. C'était une vidéo allemande.
Oui, avec une bande de jeunes qui filment un accident, qui envoient les images à leurs copains jusqu'à ce que l'un d'eux réalise que c'est le cadavre de sa mère qui est sur la route. Alors l'idée, là encore, c'était évidemment de réveiller les consciences. Mais moi, je préfère personnellement la parade trouvée il y a quelques semaines par un pompier, cette fois, qui a envoyé un grand coup de lance à incendie directement dans le camion d'un routier qui filmait toute fenêtre ouverte. Il devrait s'en souvenir.
Oui, sans doute. Merci beaucoup, Hélène, pour cette petite piqûre de rappel en cette période de grand départ en vacances. Et à bientôt.
À bientôt.
Et c'est au Japon qu'on file maintenant, toujours sur les routes, après les voyeurs de l'autoroute sanctionnés en Allemagne. Voici un sujet qu'on a appelé les vieux fous du volant. Bonjour Bernard Delattre.
Bonjour Sophie.
Vous êtes notre correspondant à Tokyo. Le Japon est l'un des pays les plus sûrs du monde, mais découvre pourtant avec anxiété une nouvelle forme d'insécurité, la délinquance routière des seniors. Bah oui, parce que le pays compte 28% de personnes âgées, ce qui fait 18 millions de seniors qui circulent chaque jour sur les routes. Et 5 millions d'entre eux ont plus de 75 ans, ce qui est problématique parfois.
Oui, les dernières statistiques qui viennent de sortir montrent que les conducteurs âgés de 75 ans ou plus causent deux fois plus d'accidents de la route mortels que les automobilistes plus jeunes. Et ici, comme en France, il n'y a pas de limite d'âge pour conduire. En revanche, dès l'âge de 70 ans, les seniors ont l'obligation de se soumettre tous les 3 ans à des tests cognitifs qui vérifient s'ils ne sont pas atteints de sénilité. En cas d'échec, leur permis de conduire n'est pas renouvelé. Écoutez, cet habitant de Tokyo, âgé de 78 ans, il a passé les tests.
Pour la première fois, j'ai dû me soumettre à cet examen. On a testé à la fois ma vue, mon ouïe, mes réflexes, la coordination de mes mouvements, ma mémoire, ainsi que ma capacité de concentration. Alors, j'ai réussi toutes les épreuves, mais ça a bien duré 2 heures et vraiment, ce n'était pas facile. Ceci dit, je trouve ça bien. Pour la sécurité de tous, ces contrôles y sont indispensables.
Excellente idée, ces tests. Ça se fait d'ailleurs dans pas mal d'endroits dans le monde. Hein.
Ouais.
Mais malgré ces précautions, Bernard, les accidents graves se sont multipliés ces derniers temps au Japon.
Oui, des accidents provoqués par des conducteurs âgés qui se sont assoupis au volant ou alors qu'ils n'avaient plus toute leur tête. Ils ont pris l'autoroute à contresens, ou ont perdu le contrôle de leur véhicule, ont confondu la pédale de frein et l'accélérateur. Ou alors ils ont fait une fausse manœuvre. Ils pensaient avoir enclenché la marche arrière, mais non, ils ont avancé et sont allés percuter des piétons ou s'encastrer dans la vitrine d'un magasin. Et plusieurs enfants ont perdu la vie dans ces accidents, fauchés sur le chemin de l'école par exemple. À Tokyo par exemple, en avril, un automobiliste de 87 ans ne s'est pas arrêté à un carrefour et y a renversé 12 personnes. Il y a eu plusieurs blessés graves et une fillette de 3 ans ainsi que sa mère ont été tués sur le coup. Le mari et père de ces deux victimes ont ensuite pris la parole publiquement et ce qu'il a dit a ému le pays tout entier.
Tous les matins au saut du lit, quand j'aperçois les dessins de ma fille au mur où ses jouets éparpillés dans la maison, je me rappelle tout à coup qu'elle et sa mère ne sont plus là, et ça me dévaste. Cet accident a fait de ma vie un enfer quotidien. Je veux que celui qui les a tués soit lourdement condamné. Même s'il est copé de la prison à vie, cela ne me rendrait pas ma famille, mais il n'empêche, malgré son âge et son état de santé, il faut qu'il paie et cher pour le crime qu'il a commis. Après la mort de ma femme et de ma fille, beaucoup de personnes âgées ont rendu leur permis de conduire. Ça m'a énormément touché. À tous les seniors qui, eux, continuent de conduire, je veux leur lancer un appel. Je sais bien qu'avoir une voiture est souvent indispensable quand on vit à la campagne, mais je vous en supplie. Surtout, renoncez à prendre le volant si vous ne vous sentez plus sûr de vous. C'est la seule façon de mettre un terme à cette hécatombe qui n'en finit pas sur nos routes et le seul moyen d'éviter que d'autres familles soient, comme la mienne, détruites à jamais. Je vous le demande du fond du cœur.
Ouais, témoignage très, très émouvant. Cet acte de rendre son permis de conduire qu'il évoque, c'était ponctuel à cause de l'émotion provoquée par le drame ?
Alors là, on a vraiment vu s'envoler le nombre de seniors qui sont allés remettre leur permis de conduire au commissariat. Mais il faut savoir qu'ici au Japon, ça fait l'objet d'une vraie politique d'incitation. Aux personnes âgées qui abandonnent la conduite, on offre des chèques taxi gratuits, des bons d'achat dans les commerces, des tarifs préférentiels dans le transport public, etc. Et donc chaque année, entre 2 et 300 000 conducteurs âgés renoncent d'eux-mêmes à prendre le volant. C'est le cas de ces deux Tokyoïtes que j'ai rencontrés. Ils sont respectivement octogénaires et sexagénaires.
Je me sens en pleine forme, mais je me suis dit qu'il valait mieux que je renonce à mon permis trop tôt plutôt que trop tard, avant de tuer quelqu'un dans un accident.
Après cette série noire d'accidents, j'étais hantée par l'idée qu'un jour, je pourrais moi-même causer de tels drames. J'ai donc décidé de ne pas courir ce risque. Et depuis, j'insiste auprès de tous les gens de mon âge que je connais pour qu'ils fassent de même. Le gouvernement compte serrer la vis aux conducteurs âgés, ça me paraît une très bonne chose.
Alors serrer la vis, est-ce que ça veut dire que le Japon va durcir sa réglementation, Bernard ?
Oui, car malgré ces tests cognitifs obligatoires, le gouvernement estime qu'il y a encore au minimum sur les routes entre 50 000 et 100 000 conducteurs qui sont littéralement des fous du volant.
Ah oui, ça fait encore beaucoup de dangers publics quand même. Et du coup, en quoi va consister le serrage de vis pour contrer ces fous du volant âgés ?
Deux choses. On va leur interdire de circuler aux abords des écoles le matin et à l'heure de la sortie de la classe. Mmh. Et les obliger à installer des dispositifs de sécurité dans leur voiture. Un système de freinage automatique d'urgence, par exemple. Mmh. Ou un dispositif qui empêche les accélérations brusques, qui sont souvent le fait de conducteurs âgés ayant perdu les pédales. Mmh. Il existe aussi des caméras braquées sur le visage du conducteur et qui l'avertissent quand il montre des signes d'endormissement, comme des bails ou des paupières lourdes.
Mais on imagine que ces automobilistes âgés ont plutôt des vieilles voitures qui sont dépourvues de toute cette technologie ?
Oui, c'est souvent le cas. Alors, on peut rajouter ces équipements modernes de sécurité dans n'importe quel véhicule. Ouais. Mais ils coûtent assez cher. Et vous savez, au Japon, beaucoup de personnes âgées vivent sous le seuil de pauvreté. Et c'est pourquoi de plus en plus de municipalités en viennent à octroyer une aide financière aux seniors défavorisés, afin qu'eux aussi soient en mesure de sécuriser leur véhicule.
Voilà, merci beaucoup Bernard pour ce coup de projecteur japonais sur ces vieux fous du volant, donc qui pour beaucoup rendent leur permis et sur les mesures prises par le Japon pour faire face à cette situation. À très bientôt dans les carnets, Bernard. Au revoir.
Merci à vous, Sophie. À très bientôt.
Europe 1.
Ceux qu'on va rencontrer maintenant n'ont pas de volant, mais des guidons. Avec leur vélo, ils font des figures sur des rampes, des virées dans les montagnes alentours. Ce sont les jeunes garçons et filles d'un club de BMX de Kaboul. A tout de suite.
Europe 1. Notes from around the world. Europe 1, les carnets du monde.
C'est avec vous Sophie Larmoyer jusqu'à 14h sur Europe 1. Vous nous emmenez maintenant à Kaboul, la capitale afghane où la jeunesse doit faire face à la violence au quotidien.
Une criminalité en hausse et des attentats toujours plus meurtriers rendent les rues de Kaboul parmi les plus dangereuses du pays et même du monde. C'est pire pour les femmes qui souvent ne sortent que dans un but précis et certainement pas pour faire du sport. Pourtant, une poignée de jeunes, dont certaines ont à peine 13 ans, bravent les dangers et les interdits pour parcourir la capitale sur des BMX, vous savez, ces vélos tout-terrain destinés à faire des figures. Margot Ben est allée rencontrer des riders inattendus dans Kaboul. Reportage.
Nous sommes dans la cour d'une école d'un quartier défavorisé de Kaboul, un vendredi matin. Ici, c'est le week-end, mais sous le préau, mur défraîchi, résonnent les rires d'une quinzaine de jeunes. Ils ont de 13 à 22 ans et se sont levés tôt pour venir à l'entraînement de l'unique club de BMX de Kaboul. Sahar, 21 ans, est étudiante en informatique. Dans 2 heures, elle doit se rendre à un examen de maths, mais se dépêche d'enfiler un casque et de choisir un vélo.
Every day before my exam, I came here and we have training.
Chaque jour, avant mes examens, je viens ici pour m'entraîner. Quand il n'y a pas trop de circulation, on va rouler dans les rues de la ville. Mais c'est dur parfois, car je sais que beaucoup d'hommes ne me respectent pas. Et parfois même des femmes se retournent contre moi. Un jour, une femme m'a même jeté une pomme à la figure. Mais je sais qu'elles n'ont pas eu les mêmes opportunités que moi et que leurs familles les ont conditionnées pour qu'elles aient cette mentalité. Alors, je leur dis, jetez-moi des choses dessus, mais je veux changer la donne pour vos filles. Elles veulent sortir de chez elles et faire ce qu'elles veulent.
Cela fait déjà 3 ans que le club existe. Au total, il compte 10 filles et 35 garçons. Sadaf, 14 ans, regarde d'un air envieux ses camarades enchaîner les figures périlleuses sur des rampes en acier. Elle est montée à vélo pour la première fois il y a quelques mois et elle n'a pas froid aux yeux.
3 fois par semaine, je me réveille à 7h du matin pour m'entraîner. À cause de notre société conservatrice, quand je fais du vélo dans la rue, cela surprend. Il est arrivé que des hommes viennent à mobylette et nous menacent, mes copines et moi. Ils nous disent d'arrêter de faire du vélo, ils nous frappent. Mais si les garçons font quelque chose, les filles doivent aussi pouvoir le faire. Je me fiche de ce que pensent les gens.
Le fondateur du club, c'est Asrar Mersada. Ce jeune homme de 22 ans s'est passionné pour le BMX en regardant des vidéos sur YouTube. Depuis, le club est devenu une ONG qui promeut la paix et l'égalité hommes-femmes. Et grâce aux réseaux sociaux, elle compte des fans jusqu'en Europe et aux États-Unis.
Au début, on n'avait pas d'équipement. On utilisait des vélos pour enfants qu'on bricolait pour faire du BMX. On fabriquait tout nous-mêmes, même des rampes pour faire des figures. Mais on a commencé à être visible dans les médias et sur les réseaux sociaux. Des jeunes en Europe ont levé des fonds pour nous envoyer du matériel. Des marques de sport nous ont aussi donné de l'équipement et des t-shirts.
Ces vélos, casques, gants et rampes sont arrivés en Afghanistan dans un grand conteneur qui trône encore dans un coin de la cour.
Il est tombé.
C'est pas grave, c'est assez courant que quelqu'un tombe. Le plus grave, ce sont les attentats. Il y a un an et demi, alors qu'on rentrait de l'entraînement, une bombe magnétique a explosé à seulement 10 mètres de nous. Il y a eu 2 morts. Heureusement, aucun membre de notre équipe n'a été touché.
Kaboul est l'une des villes les plus dangereuses d'Afghanistan. Les talibans et le groupe État islamique multiplient les attentats. Et ce quartier, majoritairement chiite, est particulièrement ciblé par l'EI. Pourtant, Asrar en est persuadé. Sauter ensemble sur des vélos tout-terrain, c'est une manière comme une autre de promouvoir la paix.
J'aime les sports extrêmes. Le BMX, c'est vraiment l'occasion de faire des trucs cool. Et en plus, le sport peut favoriser la paix et rassembler les peuples. Dans notre club, nous avons par exemple des membres des ethnies pachtounes, tadjiks ou encore hazara. Drop and ride, ça signifie lâchez vos armes et faites du vélo. C'est l'idée, c'est le message de notre club à tous ceux qui se battent dans notre pays.
Selon l'ONU, la guerre a causé plus de 10 000 victimes civiles en 2018. C'est le plus lourd bilan de cette dernière décennie. Malgré tout, les membres du club de BMX de Kaboul jurent que rien ne les empêchera de filer à travers la ville sur leur nouveau vélo. À Kaboul, Margot Ben, Europe 1.
Drop and ride, lâchez vos armes et faites du vélo. Quel joli programme, des idéalistes il en faut. Margot Ben est en ligne avec nous. Bonjour Margot.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Merci pour ce reportage plutôt surprenant. On imagine que dans le contexte sécuritaire de la capitale afghane, pratiquer un sport d'extérieur pour les jeunes, ça doit pas être très courant.
Alors bien sûr, ce n'est pas la norme, surtout pour les femmes. Faire du vélo, investir l'espace public, pour elles, c'est aussi un acte politique et féministe. Mais malgré tout, il y a un bon nombre de jeunes, hommes et femmes, qui bravent ces interdits. En ce moment, par exemple, pour échapper à la chaleur de l'été, les jeunes de Drop and Ride vont faire du VTT dans les montagnes qui entourent Kaboul. Ils prennent des selfies avec des GoPros, ils les postent sur les réseaux sociaux, comme la plupart des jeunes de leur âge à travers le monde. Ouais. D'autres vont faire des randonnées. Si on se lève assez tôt, vers 5h du matin, on croise des groupes de jeunes dans les collines, dans les montagnes, qui marchent en écoutant de la musique, qui pique-niquent, on voit des jeunes couples se balader main dans la main, ce qu'ils ne pourraient pas faire, bien sûr, dans les rues de la ville. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il existe en Afghanistan une équipe féminine de cyclisme de route, une équipe de ski, une équipe d'alpinistes qui ont récemment gravi le plus haut sommet afghan. Il y a une ONG qui entraîne les jeunes femmes à faire du marathon. Donc bien sûr, ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais ça existe et c'est bien plus répandu qu'on ne pourrait le croire.
Il y a donc toute une communauté de jeunes qui tentent de faire bouger les choses, en quelque sorte, à Kaboul.
Oui, il y a des jeunes qui ont étudié à l'étranger, parfois, et qui reviennent créer des entreprises ici. Par exemple, des architectes, des restaurateurs qui ouvrent des cafés branchés. Il y a un ou deux cafés littéraires qui sont gérés par des jeunes femmes, où l'on peut aussi trouver des groupes d'amis qui fument le narguilé, qui discutent de politique, des femmes qui enlèvent leur voile, ce qui est bien évidemment impossible dans la rue. Il y a des jeunes créateurs de mode qui ont ouvert des boutiques. Alors, ça ne fait pas oublier que la grande majorité des Afghans vit dans la pauvreté, que le taux de chômage est extrêmement élevé, que la corruption est endémique. Ouais. Mais certains arrivent tout de même à créer leur entreprise. Il y a toute une classe moyenne de jeunes, éduqués, motivés, qui pourraient très bien s'expatrier, mais qui préfèrent rester dans leur pays, malgré les difficultés, malgré l'insécurité, pour développer l'économie et tout simplement rendre la vie plus plaisante.
Belle énergie, on essaiera de la faire entendre régulièrement grâce à vous. Merci Margot. Et je signale que le groupe Drop and Ride que vous nous avez fait découvrir a une page Facebook à leur nom où ils postent plein de petites vidéos très sympas. Merci, à bientôt Margot.
À bientôt. Europe 1.
Parfois, l'aventure est bien plus proche de nous et on la découvre dans un roman. Nicolas Caro arrive et son auteur du jour est néerlandais.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h22, Sophie Larmoyer, l'heure de notre rendez-vous Un livre dans le monde, ou quand la littérature étrangère nous ouvre les portes d'une culture. Et c'est avec Nicolas Caro.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Alors c'est aux Pays-Bas que votre tour du monde littéraire fait escale cette semaine.
Oui, chez Herman Cor, K-O-C-H, l'auteur du Fossé chez Belfond, l'histoire de Robert Walter. C'est lui qui raconte. Robert Walter, c'est le maire d'Amsterdam quand même. Un bon maire d'ailleurs, un type bien chaleureux, sympa, qui roule à vélo, on est à Amsterdam. Justement, en tant que maire, il se doit de participer à la réception du nouvel an organisée par la mairie. Ça le gonfle un peu, mais bon, sa femme Sylvia l'accompagne, elle le fait pour lui faire plaisir, hein, mais elle n'est pas tellement fan non plus de ce genre de mondanité, mais enfin, elle fait l'effort.
C'est beau.
Mais oui, sauf qu'un drame va se dérouler lors de cette réception. Attention Sophie, c'est brutal.
Allez, on se tient prêt.
Alors sa femme est donc à la réception. Lui, il discute avec des invités. Et soudain, attention, il tourne la tête et il voit Sylvia rire à gorge déployée avec son adjoint.
C'est tout ?
Bah comment ça, c'est tout ? Elle rit avec son adjoint. En plus, c'est un type terne, un gros naze.
Mais quel est le problème ?
Le problème, c'est que Robert Walter commence à s'imaginer des trucs. Et si sa femme le trompait avec son adjoint, ça devient une obsession. Et de cet événement découle une forme de suspense terrible. Robert se transforme petit à petit, ce soupçon l'obsède. Il n'y a pourtant absolument aucune raison de penser que sa femme le trompe.
Mais,
mais justement, un petit peu. Ça aussi, ça devient bizarre pour Robert. Ouais. Il trouve que sa femme se comporte beaucoup trop normalement. Normalement. C'est l'histoire d'un homme qui vrille complètement. Bon, faut dire qu'il n'est pas aidé par les autres événements de sa vie. Ses parents, qui vont avoir 95 ans, lui annoncent qu'ils sont fatigués de la vie et qu'ils vont sans doute mettre fin à leur jour.
Bah, c'est terrible votre roman, là.
Alors oui, c'est assez terrible. Mais en fait, c'est aussi très drôle, puisque Herman Cor a été comédien satiriste et il pratique l'humour à toutes les lignes. Ça donne un cocktail drôle et triste, parfait. Caroline Hast, son éditrice.
C'est l'incarnation d'un humour grinçant. Je crois que c'est encore ce qui le définit le mieux. C'est-à-dire, vous riez vraiment souvent fort, parce qu'il a le sens du gag, de certaines formules, de situations qui sont très très drôles. Et en même temps, c'est toujours, y a toujours quelque chose d'un peu dérangeant. En plus, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à se mettre en scène. C'est-à-dire, si vous le connaissez un tout petit peu, vous réalisez que les personnages qui sont mis en scène, je pense, sont souvent inspirés de lui. Mais pousser à chaque fois avec, on pousse le curseur un petit peu plus loin.
Un humour intelligent donc.
Oui, et mine de rien, il parvient à une certaine profondeur dans son roman. Les déboires de Robert Walter vont le faire s'interroger sur lui-même. Et nous, lecteurs, on s'interroge aussi. Et puis, il y a le style d'Herman Cor. C'est un des rois du pas de côté. Il pratique l'art de la digression rapide. Il ne se contente pas de rester dans ses rails pour faire progresser l'histoire. Il s'amuse, il se décale un peu. Dès les premières lignes, je vous lis le tout début quand il présente sa femme. « Je l'appellerai Sylvia. Ce n'est pas son prénom. Son vrai prénom ne ferait que détourner l'attention. » Les gens associent toutes sortes de choses au prénom, surtout quand le prénom en question n'est pas d'ici, quand ils ignorent totalement comment le prononcer, sans parler de l'écrire correctement, voyez ? Il aurait pu se contenter de dire « elle s'appelait Sylvia », mais non. Et c'est ce qui fait le charme d'Herman Cor, Caroline Hast, à nouveau.
C'est un polémiste, en fait. Je crois que c'est des restes de ses anciens métiers, c'est-à-dire quand il était espèce de comédien un peu satiriste. Finalement, vous vous accrochez à un détail, et puis vous pouvez en faire... une affaire. C'est un des meilleurs pour faire ça. Alors c'est vrai que ça prête à des digressions. C'est comme si à chaque fois il pouvait pas s'empêcher de nous donner son avis, qui est souvent assez pertinent d'ailleurs. Et puis ça sert aussi, je trouve, à dédramatiser les choses, ou en tout cas à créer ce truc de « on l'accompagne dans ses livres ».
Il avait déjà publié un livre qui avait très bien marché aussi.
Oui, énorme succès. Le Dîner, son sixième roman, des centaines de milliers d'exemplaires vendus dans 35 pays. Il a aussi fait de la télévision, des shows à la Monty Python. C'est un vrai personnage, cet Herman Cor.
Et son dernier roman, donc Le Fossé, chez Belfond, c'est traduit par...
Par Isabelle Rosselin. À ce propos, dans le livre, voilà comment il définit sa propre langue. De rudes gargarismes et de froids raclements de gorge que nous appelons le néerlandais.
Musicalement, je valide cette définition. Merci beaucoup, Nicolas.
Merci Sophie.
Europe 1.
En ce lendemain de Gay Pride parisienne, on va filer vers deux pays dont les gouvernements conservateurs et le climat populiste font craindre un regain de discrimination envers les communautés LGBT. On sera au Brésil et en Italie.
Europe 1, les carnets du monde.
C'est jusqu'à 14h sur Europe 1. Sophie Larmoyer, le mois de juin, c'est le mois des Gay Pride, un petit peu partout dans le monde, en souvenir des émeutes de Stonewall.
Stonewall, c'était il y a 50 ans exactement, du nom de ce bar new-yorkais où la police avait fait une descente le 28 juin 1969, provoquant la révolte de la communauté homosexuelle. 50 ans après, la situation a bien évolué évidemment, mais dans certains endroits du monde, les LGBT sont encore en mode résistance. C'est le cas au Brésil où nous filons maintenant retrouver notre correspondante Marie Naudacher. Bonjour Marie.
Bonjour.
3 millions de personnes étaient dans les rues de Sao Paulo le week-end dernier. C'était la Gay Pride la plus grande du monde. Une marée humaine d'autant plus importante dans le climat général de crainte dans cette communauté depuis l'élection du président d'extrême droite fin 2018. Ce président qui, je le rappelle, se dit fier d'être homophobe. Je rappelle juste l'une des sorties de Jair Bolsonaro. Il avait déclaré qu'il préférait son fils mort plutôt que de le voir revenir à la maison avec un moustachu. Ça donne le ton. Et c'est dans ce contexte, Marie, que la Cour suprême, donc la plus haute juridiction du pays, vient de prendre le contre-pied du pouvoir en place. Racontez-nous.
Oui, alors il y a tout juste 2 semaines, la Cour suprême a décidé de criminaliser l'homophobie et en faisant ça, elle s'est substituée au Congrès, estimant que les parlementaires n'agissaient pas sur le sujet. Et donc désormais, les paroles ou les actes homophobes seront passibles de prison au même titre que les actes racistes. Les militants attendaient cela depuis plus de 10 ans et c'est évidemment une décision d'autant plus importante et symbolique avec ce président au pouvoir qui lui-même profère des injures. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si Bolsonaro se permet ces sorties homophobes, c'est aussi parce qu'elles reflètent ce que pensent une partie des Brésiliens attachés aux valeurs religieuses et à une vision très conservatrice de la famille.
Ouais, c'est vraiment une fracture dans le pays. On va en reparler avec vous quand on aura écouté votre reportage auprès de la communauté LGBT où l'on comprend que leur quotidien n'est pas simple mais qu'ils ont bien l'intention de faire face. Reportage.
L'Avenida Paulista transformée en scène de danse, de la musique à tue-tête, des drapeaux arc-en-ciel, des tenues extravagantes dignes du carnaval. La Gay Pride de São Paulo ressemble à celle d'autres grandes villes, sauf que le Brésil est le pays où le plus de personnes LGBT au monde sont assassinées. Selon le groupe gay de Bahia, près de 400 meurtres en 2017. Des chiffres qui rendent à peine compte des violences quotidiennes. Derrière ses cheveux violets et ses joues d'adolescente, le regard de Kaylan, 15 ans, n'est pas des plus joyeux. Il y a 2 ans, quand elle a annoncé qu'elle était lesbienne, la réaction de sa mère a été radicale.
Elle m'a battue et j'ai dû quitter la maison. Aujourd'hui, elle ne veut pas me parler. Elle a coupé tout lien avec sa propre fille. Ma mère, je peux être à la rue, peu lui importe.
Nos familles existent, c'est le hashtag qui résume le cri des familles homoparentales. Marcella a choisi de raconter son histoire avec Mélanie et la naissance de leurs jumeaux dans un livre sorti cette semaine.
Nous sommes une famille de 2 lesbiennes mariées avec des enfants. Donc c'est important que notre histoire puisse rendre plus forte d'autres familles, qu'elle puisse faire changer les regards pour résister contre ce gouvernement désastreux qui tente de nous faire revenir en arrière. Je sens des regards de défiance, des regards gênés, mais peu importe, je ne baisserai pas la tête. Et le livre est là pour ça, pour dire qu'on ne va ni s'excuser d'exister, ni se cacher dans l'armoire.
Même logique pour Joaon, opérateur télémarketing en short en jean et énorme boucle d'oreille. Pour lui, il faut occuper tous les espaces possibles pour tenir tête aux conservateurs.
C'était pas facile avant, maintenant c'est bien pire. Notre racisme est voilé, fruit de notre histoire de métissage. C'est la même chose pour l'homophobie ou la transphobie, elle est voilée. Notre État, notre police sont programmés pour cette haine, mais je ne crois pas que cette loi va empêcher qui que ce soit de me critiquer dans la rue.
Pour avoir une idée du grand écart qui définit le Brésil sur ces questions des luttes LGBT, il suffit d'aller au Parlement de São Paulo. D'un côté, la députée Valéria Bolsonaro, parente du président d'extrême droite.
À mon avis, on ne peut pas penser qu'aux minorités, où tout le monde est égal, où personne n'est égal. C'est pas possible. Si on commence à se dire « lui est gay, lui est noir, lui est indien », vous séparez le pays en petits groupes.
À quelques mètres de là, le bureau d'Erika Malunguinho, la première députée transsexuelle du pays.
Le Brésil a toujours été le pays le plus meurtrier pour les LGBT. Le Brésil a toujours été un pays extrêmement raciste. Je ne veux surtout pas minimiser la gravité du moment actuel, mais je veux qu'on soit cohérent, pour ne pas croire qu'au départ de Bolsonaro, ces violences et ces maladies structurelles vont s'évaporer.
João Trevisan partage cet avis. Auteur et militant de 75 ans, il vient d'inaugurer une exposition au Musée de la diversité sexuelle de São Paulo qui retrace l'histoire de l'homosexualité au Brésil.
Comme avec tous les gouvernements conservateurs et même dictatoriaux, il y a un effet collatéral qui n'est pas voulu mais qui est inévitable. De plus en plus de gens ont une conscience critique. Si on capitule et oublie tout ce que nous avons acquis, alors Bolsonaro aura réussi ce qu'il voulait. C'est ce que j'appelle la résistance des vers luisants. Nous sommes comme eux. Plus la nuit est obscure, plus nous brillons.
Briller dans la nuit, exister, la communauté LGBT du Brésil est plus visible et mobilisée que jamais. Si elle suscite encore de la haine, du dégoût dans la société, elle n'a pas l'intention de se laisser marcher sur les pieds. À São Paulo, Marino Dacher, Europe 1.
Voilà, jolie métaphore que celle des vers luisants qui véhicule une vision plutôt optimiste. Marie, vous êtes toujours en ligne avec nous depuis Sao Paulo. Expliquez-nous, au-delà des craintes largement justifiées par ce que dit Bolsonaro, est-ce que concrètement la discrimination de la communauté LGBT est organisée?
Alors pour l'instant, c'est surtout un climat général de peur, d'appréhension dans une société très divisée. Concrètement, toutes les personnes LGBT que j'ai croisées m'ont dit faire un peu plus attention quand elles se donnent la main dans la rue le soir. Alors les blancs plus privilégiés se sentent un peu moins menacés que les noirs ou les habitants des périphéries où les églises évangéliques sont très présentes, mais pour les personnalités les plus exposées, c'est intenable. Épuisé par des menaces de mort, le député Jean Willis a dû quitter le Brésil en début d'année. Il continue bien sûr à militer contre Bolsonaro, mais au prix d'un exil politique pour sauver sa peau, et il a été remplacé par un autre député gay, père de famille.
Et les positions sans complexe du président ne font que renforcer cette fracture, j'imagine, dans la société.
Oui, évidemment. Alors par exemple, pour critiquer la décision de la Cour suprême qui a pénalisé l'homophobie, Jair Bolsonaro a expliqué à la presse qu'une entreprise allait désormais hésiter avant d'embaucher un gay parce qu'on peut finir devant la justice si on fait une blague, fin de citation. Il a aussi dit qu'il songeait à nommer un juge évangélique à la Cour suprême.
Alors justement, les évangéliques, parlons-en, ce sont donc des églises pentecôtistes qui ont beaucoup de poids dans la société.
Absolument, et elles entretiennent ce climat conservateur et homophobe. Pour résumer, l'homosexualité, c'est une maladie et il y a une cure possible, Dieu. Et d'ailleurs, deux jours avant la Gay Pride, dans les rues de São Paulo, les évangéliques ont organisé la gigantesque Marche pour Jésus. Les politiques conservateurs, Bolsonaro en tête, s'y sont joints. C'était d'ailleurs le premier président à s'y rendre, pointant du doigt ce qu'il a appelé les gros problèmes éthiques et moraux du Brésil. Et pendant ce temps, plus de 13 millions de Brésiliens sont toujours au chômage. Et après 6 mois de gouvernement Bolsonaro, eh bien, l'économie du pays ne montre aucun signe d'amélioration.
Et vous continuerez à suivre l'évolution de cet immense pays, à nous le raconter. Merci beaucoup Marie pour ce coup de projecteur sur le Brésil. À bientôt.
À bientôt.
On va aller maintenant dans un autre pays où les personnes LGBT ne se sentent pas toujours acceptées ou même en sécurité, c'est l'Italie. Dans quelques jours, le pays accueille justement les Eurogames, sorte de Jeux olympiques de la communauté LGBT, pour défendre leurs droits dans une Italie qu'ils considèrent en retard par rapport à ses voisins. Ils sont de plus en plus nombreux à s'inscrire dans des associations sportives créées par et pour des personnes LGBT. Voici le reportage à Rome de Blandine Hugoni.
Dans un gymnase de la banlieue romaine, une centaine de joueurs s'envoient des balles au-dessus des filets. Ce soir, c'est le tournoi de fin d'année de la plus grosse association de volley-ball LGBT d'Italie. En maillot sombre et protection aux genoux, ou en chaussettes rose fluo et foulard dans les cheveux, peu importe la tenue. Dans cette équipe, tous, homosexuels ou trans, viennent avant tout pour être eux-mêmes, tout en pratiquant leur passion. Une révélation pour Giovanni, qui vient d'un petit village conservateur du nord de l'Italie.
Chez moi, 90% des gens votent extrême droite. Ils sont tous un peu homophobes. Donc j'ai grandi dans cette ambiance où il valait mieux ne rien dire. J'ai rejoint cette équipe de volley parce que dans une ville aussi grande, tu te sens seul, surtout si tu es gay. Mais aussi pour être moi-même. Il n'y a pas de préjugés ici. Tu te sens un peu protégé, en fait. Dans une équipe hétéro, ça aurait été certainement beaucoup plus difficile.
Le problème en Italie, c'est le cliché très masculin du sportif, répond entre deux matchs le jeune Angelo qui a vécu en France.
En France, j'ai fait du sport universitaire. Personne ne se demandait si moi j'étais gay ou non.
mais en Italie. Malheureusement, notre culture méditerranéenne a laissé un héritage machiste très robuste. Le sport est aussi associé à la masculinité.
Comme de nombreuses équipes sportives LGBT en Italie, celle de volley a vu son nombre d'adhérents exploser en 10 ans. Pour Giovanni, son président, ce type d'initiative arc-en-ciel, c'est aussi devenu un acte militant pour changer les regards.
Dans notre équipe, on vient sans avoir peur d'être étiqueté femmelette, d'être le gay qui ne sait pas faire de sport. Et ça, ça contribue au combat LGBT dans la société en général parce que ça démontre que l'homosexuel peut être sportif et même à un bon niveau. L'an dernier, on est arrivé en finale du championnat régional de volley. Les autres équipes savent qu'on est une association gay, mais elles savent aussi que pour nous battre, eh bien, elles devront être plus fortes sur le terrain. Ils ne partent pas gagnants juste parce qu'on est gay.
Militants, ils le sont vraiment. Cette année, toute l'équipe a enfilé sa tenue de volleyeur pour défiler à la Gay Pride. Ballon à la main, les joueurs se font quelques passes au milieu de la foule devant l'immense gare de Rome. Mirko est venu ici pour dénoncer les violences homophobes en hausse en Italie. Pour le sportif en Marseille et basket, depuis un an, son équipe LGBT, c'est son cocon de sécurité.
J'ai joué 5 ans dans une équipe de rugby dont le président était d'un groupe néo-fasciste. Il nous forçait à aller à ses soirées à thème avec les mecs d'extrême droite. Bon, heureusement, j'ai la chance d'avoir un style très masculin, disons, donc ça se voyait pas. Mais bien sûr, j'aurais jamais eu le courage de dire « je suis gay ». C'était une ambiance hostile. Mon équipe aujourd'hui, elle me donne envie de ne plus baisser la tête quand les gens deviennent lourds ou violents physiquement ou psychologiquement. Et petit à petit, à travers le sport ou dans le quotidien, on réussira peut-être à leur faire comprendre qu'en réalité, on est tous pareils. La chasse aux sorcières, ça suffit.
En Italie, plus de 40% des personnes LGBT qui pratiquent un sport n'osent pas y faire leur coming out, surtout s'il s'agit du football, sport favori des Italiens. Tous le disent, le plus dur, ce sont les vestiaires. Il faut donc que certains montrent l'exemple, explique Stefano. Boucle d'oreille et barbe taillée, le footballeur a fondé la première association italienne de foot LGBT il y a 15 ans.
Quand j'étais adolescent, dans les vestiaires, on se moquait de moi et je ne répondais rien. Je disais pas « je suis comme ça, et alors, t'as un problème ?» Parce que malheureusement, les vestiaires, c'est toujours comme ça. On ressent une forte exclusion et après, sur le terrain, on ne te passe pas la balle. Et c'est pour ça que je veux donner l'exemple, pour aider les jeunes homosexuels. Imagine si un Ronaldo ou un Del Piero faisait son coming out. Ce serait un super coup de pouce, parce qu'avoir plus de visibilité, ça permet plus d'intégration.
Il y a 25 ans, la première Gay Pride italienne avait rassemblé une centaine de personnes. Cette année, ils étaient 700 000 dans les rues de Rome. Sur un des chars couleur arc-en-ciel, Adriano Bertolucci a pris le micro.
Inscrivez-vous aux Eurogames à Rome. Et belle Gay Pride à tous. Regardez comme il y a du monde.
Adriano Bertolucci, c'est l'organisateur des Eurogames cette année à Rome. L'occasion, selon lui, de rendre le pays un peu plus gay-friendly malgré son retard sur certains droits LGBT.
En Italie, on est en retard, comme toujours, et surtout sur le thème des familles homoparentales, sur le thème de l'adoption de l'enfant du conjoint, sur la procréation assistée. Et ici, on a le Vatican. L'Italie est encore plus conservatrice qu'avant. On le voit avec le vote pour les souverainistes. Moi, je suis convaincu que les Eurogames peuvent pousser l'Italie à plus de reconnaissance de nos droits LGBT. Et je dis, il y aura un avant et un après Eurogames, comme il y a eu un avant et un après la première Gay Pride.
Du 11 au 13 juillet, Rome deviendra donc la capitale des sportifs LGBT. Tennis, natation, badminton, golf, au total 19 disciplines sont en compétition avec des athlètes du monde entier. Quelle que soit leur orientation sexuelle, les Eurogames sont ouverts à tous, insistent les organisateurs qui annoncent l'arrivée de 20 000 personnes dans la capitale italienne pour l'occasion. Rome, Blandine Hugonnet, Europe 1.
Voilà, une belle fête sportive en perspective si vous avez la chance de passer par Rome dans une dizaine de jours.
Europe 1.
Tous deux sont ou ont été grands reporters, correspondants de guerre, écrivains, entre autres, car ces deux-là semblent avoir eu mille vies. Olivier Weber nous rejoint dans un instant pour nous parler de Joseph Kessel.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.
Europe 1. Les carnets du monde.
Il est 13h42, Sophie Larmoyer. Vous l'aurez sans doute remarqué, et nos auditeurs aussi, s'ils fréquentent les librairies. Un auteur est incontournable en ce moment, c'est Joseph Kessel.
Le 23 juillet, ça fera 40 ans que Joseph Kessel s'éteignait d'une rupture d'anévrisme. 40 ans, un joli prétexte pour une rencontre avec un autre homme qui lui ressemble, également grand reporter, notamment de guerre, également écrivain, également touché à vie par le virus du voyage et de la rencontre. On est heureux de recevoir aujourd'hui dans les carnets Olivier Weber. Bonjour.
Bonjour Sophie.
De votre rencontre avec Joseph Kessel est né un dictionnaire amoureux paru le mois dernier, de A à Z, 180 occurrences pour raconter cet immense écrivain français. Alors je disais que les 40 ans de sa disparition, c'était un prétexte, parce que finalement ça fait bien plus longtemps que vous l'avez rencontré, Joseph Kessel, enfant, avec une lampe torche planquée sous les draps lors de longues nuits blanches.
Oui, parce que c'était un souvenir de jeunesse dans les orphelinats, les internats, etc., que j'ai fréquentés. Donc je lisais très jeune en jouant aux billes et je gagnais de l'argent avec les billes. J'achetais des livres de Goethe, de Cervantes et de Joseph Kessel. Et Joseph Kessel m'a accompagné, ou je l'ai accompagné entre guillemets dans ses romans, parce que voilà, ça m'a fait espérer, ça m'a fait ouvrir des horizons. Et je crois qu'après, on a envie de les pousser, ces horizons, et d'aller voir ailleurs.
L'envie de voyage vient de là, peut-être.
Oui, beaucoup.
J'ai eu envie que vous nous parliez de lui, justement, parce que vous savez, dans les carnets du monde, on essaye de justement raconter pour faire comprendre comment va la vie ailleurs. Et c'est exactement ce qu'a fait Kessel au long de ses 1000 vies, hein, comme vous dites. Un chroniqueur du monde qui a traversé le XXe siècle et qui a traversé la planète.
Oui, il a pratiquement tout fait. D'ailleurs, très jeune, à 20 ans, il avait déjà fait le tour du monde en étant combattant pendant la Première Guerre mondiale. Et puis ensuite,
aviateur
journaliste,
volontaire.
Aviateur, absolument. À une époque où les avions tombaient vite, donc on remplaçait très vite les pilotes qui avaient 18-19 ans. Et il a eu le goût très jeune, en fait, de la Pampa, parce qu'il est né en Argentine, de parents juifs russes. Et après, ses parents sont retournés avec le père, médecin, sur les bords de l'Oural. Et à Orenbourg, cette ville au bord de l'Oural, vous aviez d'un côté la rive européenne, l'autre côté, c'était l'Asie, avec des caravanes d'Orient chargées de pierres précieuses, chargées d'épices, chargées de soie et d'autres lapis-lazuli. Et donc, ça a fait rêver Kessel jusqu'à l'Afghanistan, qu'il mettra des années à découvrir. Mais pour répondre à votre question, c'était à la fois un écrivain et un voyageur, ou dans l'autre sens. Et donc, le grand reportage lui a permis d'accomplir, on va dire, ses envies et de les transformer même, je dirais, en roman.
À la lettre R, on trouve notamment le mot reportage, évidemment, vous en parliez à l'instant, et voilà comment vous décrivez Kessel. Peintre de la condition humaine dont la dimension aventureuse n'est pas qu'un prétexte, il a porté au plus haut point cette manière de rapporter les faits, de restituer le réel, de réenchanter le monde en décrivant ses beautés et ses laideurs, ses bonheurs et ses horreurs, de dénicher aussi dans les guerres, ce qui est la marque des grands écrivains reporters, les oasis d'humanité et les îlots d'espérance.
Oui, parce que je crois beaucoup qu'avec le reportage ou le réel, on peut basculer vers le roman, et que le roman nous fait comprendre aussi ce qu'est le monde. On peut essayer de le décrypter, de l'analyser, aujourd'hui même, encore.
C'est-à-dire que conteur et témoin, c'est pas contradictoire.
Non, c'est pas contradictoire, au contraire. Kessel, pour moi, fait partie de ces écrivains un peu du malentendu, parce que le décor, l'aventure, le baroun ne servent qu'à être un prétexte pour vraiment regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire l'âme humaine, la culpabilité, les tréfonds de l'âme, etc. Et c'est ça qui est beau, le roman sert à débusquer tout ça. Kessel avait fait une compilation de ses différents reportages, écrits sur plusieurs années, ça fait à peu près 6 tomes, en fonction des éditions, il a appelé ça « Témoin parmi les hommes ». Je trouve que c'est magnifique, c'est votre métier à vous aussi, Sophie, c'est le métier des enseignants, c'est quelquefois la vocation entre guillemets des parents. On est là pour transmettre, on a reçu et on transmet. Moi, j'ai beaucoup reçu avec les livres de ces différents romanciers écrivains que j'ai évoqués, mais c'est aussi Hemingway, c'est aussi Dos Passos, Steinbeck, Malaparte, très souvent d'ailleurs des reporters de guerre qui sont devenus romanciers. Et voilà, j'ai simplement envie de transmettre moi aussi à des plus jeunes.
Voyage à la lettre V, évidemment.
Hein. Oui.
Voyager n'est pas une profession, une obligation ou une distraction, disait Kessel. C'est une profonde exigence, une nécessité presque organique. Et vous rappelez qu'il se décrivait lui-même comme un voyageur de naissance, qui a besoin de mouvement. C'est quelque chose de vital.
Oui, c'est vital chez Kessel. Je crois que c'est aussi vital chez beaucoup d'entre nous, parce que on a tous été nomades dans des temps anciens et qu'on ne supporte pas la sédentarité totale. On a envie d'aller voir, on a envie de voyager, on a envie de rapporter aussi des paroles. Quelquefois, on voyage mal parce qu'on ne voyage pas avec le cœur. Je pense qu'il faut voyager avec les yeux grands ouverts. Et qu'en tout cas, c'est un grand frère Kessel, parce qu'il nous donne des clés justement pour voir avec le cœur, avec les yeux grands ouverts. Ça, c'est important.
Et alors, on le disait, Kessel, c'était l'Europe, mais aussi l'Afghanistan, la Birmanie, l'Afrique. Il a voyagé absolument partout. Qu'est-ce qu'il faisait partir, Joseph Kessel?
Je crois que c'était la bougeotte et puis l'envie de l'aventure. Mais pour moi, ce n'est pas l'aventure au sens du baroud, mais c'est l'envie d'aller voir les autres. Et donc, c'est l'aventure humaine. C'est ça, je dirais en deux mots, c'est l'aventure humaine. Donc, c'est aller voir et puis revenir. Alors, to report, reporter, donc c'est rapporter aussi les faits. Mais ça peut être aussi rapporter des romans. Et lui, décliner ça, bon, il avait beaucoup de besoins parce que c'est un homme qui avait beaucoup de femmes, un homme qui aimait beaucoup à la vie. Et D'ailleurs, le livre sent un peu l'alcool et les maîtresses. Mais donc, il y avait beaucoup de besoins et donc beaucoup d'avances sollicitées auprès des éditeurs et des journaux. Donc, quand il revenait d'un reportage, il faisait un reportage. Mais à l'époque, c'était presque un demi-livre, ouais. Dans France Soir ou Le Matin ou autre journal. Mais il faisait aussi un roman et puis un récit de voyage. Donc voilà, c'était quelqu'un qui était boulimique, mais boulimique parce que, voilà, parce qu'il aimait la vie. Et puis, trois feuillets, ça ne suffisait pas. Il fallait faire des reportages de 300 pages.
Où irait-il aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il aurait envie de nous raconter de notre époque? De quoi témoignerait-il?
Ah, moi, je crois qu'il irait directement en Méditerranée, voir ce qui se passe avec les migrants. Il irait de l'autre côté de la Méditerranée, cette mer qui nous sépare et qui nous rapproche en même temps. Je pense qu'il retournerait en Afghanistan si le temps politique le permet, parce que c'est très, très dangereux. Et puis, malheureusement, troisièmement, il retournerait sur des contrées où les thématiques n'ont pas changé. Un seul exemple, l'esclavage. Il se trouve que moi, par hasard, je suis retourné au Soudan pour un reportage et puis un livre également, Les enfants esclaves. Donc c'était l'esclavagisme que Kessel avait déjà décrié avec un fixeur, j'allais dire un accompagnateur de renommée, c'était Henri de Montfred. C'était en Éthiopie, chic. Donc l'Abyssinie, très chic, l'Abyssinie de l'époque. Mais voilà, ça n'a pas tellement changé, donc il faut continuer à y aller. Je pense que lui serait retourné en Afrique.
On comprend aussi que le colosse était fragile et que le voyage sert à soigner ses blessures personnelles.
Beaucoup. D'où cette boulimie de la vie. Il était fragile aussi parce qu'il avait la culpabilité ou le complexe du survivant. Pourquoi? En deux mots, parce que son petit frère, Lazare Kessel, surnommé Lola, qui était un pensionnaire de la Comédie française, s'est suicidé. À 21 ans, alors qu'il déjeunait, enfin c'était quelques heures après un déjeuner sur le boulevard Saint-Michel à Paris, puis les policiers appellent Joseph Kessel dans son journal, le journal des débats l'après-midi, en disant « Votre petit frère s'est suicidé ». Mais non, c'est pas possible, je viens de le quitter. Et toute sa vie, il a porté ce complexe-là sur les épaules, et on ne peut pas lire l'œuvre de Kessel sans cela, ce côté un peu dostoïevskien, ce côté tragédie ambulante, presque grecque, antique, on va dire. Et ça se sent dans tous les livres, y compris dans les romans.
Vous parliez à l'instant de la Méditerranée, on pense aussi à tout ce qui se passe en Europe. Kessel nous donne des clés pour réapprendre ce qu'est la liberté, nous dites-vous. On en a besoin aujourd'hui?
On a beaucoup besoin aujourd'hui contre les populismes, contre la montée des nationalismes fascisants en particulier. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est Kessel qui avait croisé Hitler, avait dénoncé très vite les camps de concentration nazis avant même qu'il ne soit connu dans les pays occidentaux. On ne l'a pas écouté, on n'a pas très bien lu ses reportages. On en a fait un très beau livre, s'appelle « La passante du sans-souci », plus connu d'ailleurs pour le film avec Romy Schneider. Oui. Donc il y avait un côté, on va dire, artiste, entre guillemets. Donc il sentait l'humeur du monde et il l'a dénoncé quelquefois avant les autres. Donc il faut continuer, parce qu'il y a encore des fléaux. Ils arrivent, ils sont là.
Vous racontez comment vous avez dévoré très jeune Kessel, Conrad, Jack London, à l'heure du numérique, des tablettes, des sollicitations en tout genre. Que diriez-vous à un jeune aujourd'hui qui attaque ses vacances pour le convaincre d'emporter un livre?
Ah, un seul livre, je dirais, s'il est très jeune, Le Lion. S'il est jeune et s'il aime l'aventure, Fortune Carrée. Ça illumine, c'est un livre d'aventure. D'ailleurs, on voit Kessel qui se met en scène sous un autre nom. Donc voilà, ça donne l'occasion d'agrandir les horizons et le décor.
Voilà, ce dictionnaire amoureux de Joseph Kessel est édité par Plon. Un peu plus de 1000 pages à grignoter dans le désordre, si ça nous chante, pour découvrir encore ce compagnon des pirates, défenseur des esclaves, confesseur des truands, conteur d'une humanité en trouble, un frère parmi les hommes voguant sur l'atlas du grand roulis. Les auditeurs auront compris au passage que ce dictionnaire est drôlement bien écrit par un amoureux, écrit sur quatre continents évidemment. Et demain vous repartez, Olivier Weber.
Oui, bientôt pour le Mustang, l'Himalaya, donc au fin fond du Népal. Grosso modo, en deux mots, c'est le Tibet sans les Chinois, dans une enclave qui est au-delà des Annapurna. Donc il faut passer des barres assez hautes parce que l'Annapurna, c'est 8000 mètres. Alors, je ne vais pas monter à 8000, je vais monter à 5000-6000, ça suffit.
Vous avez eu le virus.
Oui, absolument. C'est dur d'en guérir.
Bon vent, Olivier Weber.
Merci,
merci
vous,
d'être
Sophie,
passé nous voir sur Europe 1 avant de vous échapper.
Europe 1.
Lui aussi s'échappe souvent, mais se débrouille toujours pour être avec nous le dimanche, pour nous emmener en autistan. Joseph Chovanec sera avec nous dans un instant.
Europe 1. Les carnets du monde.
Sur Europe 1, et c'est avec vous Sophie Larmoyer. C'est la promesse chaque dimanche pour boucler les carnets du monde, la visite de Joseph Chovanec. Oui, c'est l'heure de notre petite virée en autistan.
L'autistan, c'est juste une autre manière de regarder le monde grâce à une bonne dose de philosophie, un brin d'autisme et la passion du voyage et des autres. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour tout le monde.
Alors quand vous m'avez dit ce qui vous inspirait aujourd'hui, je me suis dit un instant que la chaleur vous avait tapé sur la tête.
Oh Sophie, c'est plutôt le calendrier. Après-demain, nous fêtons la journée mondiale des ovnis.
Voilà, voilà.
Alors je ne suis pas très sûre qu'elle soit officielle. Et puis après tout, les pilotes de soucoupes volantes n'en ont pas grand-chose à faire des règlements l'implantation des bipèdes terrestres. Mais peut-on raisonnablement envisager de croiser des extraterrestres? Ça me fait penser à ces cours de sanskrit que je suis pendant des années, le plus souvent seul élève face à un très érudit professeur indien. Un jour, il m'avait appris comment saluer, par quel geste, par quelle parole, un inconnu quand on le croise, quand on croise son professeur, donc il mérite une vénération particulière. Et même quand on croise, je cite, Lord Shiva. Alors là, moment d'incrédulité de ma part. Est-ce que l'éminent érudit en face de moi, doyen de l'université de Benares, croyait-il réellement pouvoir rencontrer dans ses déambulations Lord Shiva au point de préparer sa formule de salutation?
Vous le lui avez demandé?
Ben non, mais j'ai compris après sa réponse. Dans la culture occidentale, eh bien, on croit que l'être humain est seul. En dehors de lui-même, il n'y a pas d'être vivant intelligent. Mais dans d'autres cultures, il est assez naturel de rencontrer au quotidien ou presque toutes sortes d'entités, d'êtres venus d'ailleurs.
Voilà, on veut des exemples.
Ah, mais Sophie, je crois que l'un des moments les plus perturbants dans une vie de voyage, de rencontre, c'est de discuter, par exemple, avec les aborigènes d'Australie. Du moins, ceux qui n'ont pas perdu leur culture par occidentalisation forcée. Dans la description qu'ils font de leur vie, même la plus banale en apparence, se lever, prendre son petit déjeuner, ils vous expliqueront avoir vu, entendu nombre d'entités extraterrestres, le serpent arc-en-ciel qui a créé le monde, la grenouille didalique, etc. Voilà, inutile d'argumenter, de faire appel au prétendu bon sens, ces entités étaient bel et bien là. Début, on a un réflexe presque colonial, on se dit que ces gens-là ont bu ou qu'ils sont dérangés mentalement, sauf que peu à peu, on devient jaloux. Par rapport à notre mode de vie très terne, on se lève, on va ensuite travailler, mettre au boulot dodo, ces aborigènes ont une vie autrement plus palpitante.
Nous serions peut-être trop rationnels.
Je crois que nous nous sommes résignés à vivre dans un monde aseptisé. Personnellement, dans plus d'un cas, quand j'étais dans les lieux très reculés, j'avais quasiment eu l'impression de voir surgir des entités non terrestres. Quand on sort dans la nuit noire des Antilles, en particulier quand il tombe une pluie diluvienne, ou alors sur des sentiers solitaires de la nature profonde de l'île sud de la Nouvelle-Zélande, on a parfois cette sensation physique qu'un hobbit est sur le point de se présenter à nous.
Peut-être que si vous avez une grande imagination, Joseph, et c'est tant mieux.
Sophie, je ne suis pas le seul. L'autre jour, je discutais avec un ami médecin, Jaya Saravan, qui revenait d'un énième séjour de bénévolat en Indonésie. En discutant de choses et d'autres, à un moment, l'air de mon ami devint très mystérieux. J'ai eu ce frémissement que ressentent sans doute les enfants quand un ancien est sur le point de conter une histoire extraordinaire. Mon ami m'a confié qu'il avait fait un tour sur l'île de Flores, là où il y a la mythique grotte de Liangboa, où on a retrouvé cette espèce unique d'humain, bien plus petit que les autres. Un souffle extraordinaire se dégageait de cette conversation. Je crois que mon ami a vécu ce moment unique dans la vie où on se pose cette question qui ouvre le livre fondateur de Yuval Harari. Et si l'être humain tel que nous le connaissons vivait avec d'autres encore radicalement différents, c'est une leçon à méditer que cette présence radicale de la différence.
Jusqu'à croire aux extraterrestres, aux ovnis.
Je ne suis pas sûr, Sophie, que les ovnis existent. Comme le diraient les grand-mères en créole mauricien, dans 10 œufs poules n'a pas gagné petit canard. Dans des œufs de poule, tu ne trouveras pas un petit canard. Mais que les ovnis existent ou non, ils nous permettent une chose, de regarder le ciel infini.
Merci beaucoup, Joseph. On gardera le ciel en pensant à vous. À dimanche prochain.
À très bientôt.
Europe 1.
Merci à tous de nous avoir accompagnés. Il est temps de refermer les carnets. Vous pouvez les réécouter quand bon vous semble sur europe1.fr comme d'habitude. Sophie Mallier a réalisé cette émission. Florence Gimanac m'a aidé à la préparer. Merci à elle. Avec les reporters d'Europe 1, on vous donne rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles aventures, les dernières de la saison, avant de basculer dans le rythme estival de l'antenne. Portez-vous bien.
Bon dimanche après-midi sur la Terre, Sophie Larmoyer. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Christophe Onglade, vous le savez, nous propose aujourd'hui un témoignage, celui de Bruno Stabenrath. En 1976, il a 15 ans, il joue les jeunes premiers au cinéma, L'argent de poche de François Truffaut par exemple. Et puis 20 ans plus tard, alors qu'il enregistre un disque avec son groupe, un événement va bouleverser sa vie cette année-là, en 1996. Un accident de voiture qui le laisse tétraplégique, sa carrière est stoppée net. Onglade raconte une partie de son histoire à 14h, juste après les infos sur Europe 1.